Restez avec nous à l'écoute de RFI. Il est presque 11h10 en temps universel.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons des mécanismes économiques de tous ordres qui se sont mis en place depuis qu'a éclaté la crise des migrants syriens. 13 millions de Syriens sont déplacés à l'intérieur de leur propre pays et près de 5 millions d'entre eux sont réfugiés dans les pays limitrophes où ont gagné l'Europe. Il a été question d'eux lors d'une journée de débat organisée par la Banque mondiale et le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, avec le concours de l'Agence française de développement à Paris, dans les locaux de l'AFD. Au cours de cette journée, des responsables des bailleurs de fonds, mais aussi des acteurs de terrain, sont venus confronter leur point de vue. Ils se sont interrogés sur la réalité économique vécue par les réfugiés. Ils se sont aussi demandé comment, au-delà de l'aide d'urgence, la communauté internationale pouvait aider les pays qui hébergent les réfugiés, en particulier la Jordanie et le Liban, à transformer la présence de ces nouvelles populations en facteur de croissance à long terme. Des questions, des interrogations que je vais adresser parmi bien d'autres aux invités que je vous présente maintenant dans une émission enregistrée donc à l'issue de cette journée de débat dans les locaux de l'Agence française de développement. Bonjour Farid Bellage.
Bonjour.
Farid Bellage, vous êtes directeur de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient, c'est-à-dire le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Irak et l'Iran. On sait que la Banque mondiale est très active en Afrique ou en Asie et aussi en Amérique latine, mais ces pays dont vous avez la responsabilité en quelque sorte, est-ce qu'ils sont aujourd'hui accessibles à des logiques de croissance économique? Cette croissance économique qui est un peu l'alpha et l'oméga de la Banque mondiale.
Oui, ce sont des pays qui ont un potentiel de croissance économique extrêmement important. La question qui se pose aujourd'hui, c'est quelles sont les contraintes que ces pays sont en train de rencontrer sur la voie de cette croissance économique. Alors, il y a différentes contraintes. Il y a inclus celle d'avoir opté pour des modèles de développement qui ne sont pas toujours les meilleurs. Mais là, il y a un travail à faire et nous le faisons avec eux. Il y a une autre contrainte qui est externe et qui est celle des crises aujourd'hui qui sont sur la table. La crise syrienne étant la plus importante.
Olivier Rey, vous êtes également autour de cette table avec nous. Vous êtes le responsable de la cellule de prévention des crises pour l'Agence française de développement, une agence qu'on a plutôt l'habitude de voir intervenir en Afrique. Est-ce que cette crise des migrants syriens pousse l'agence à bouleverser son champ d'intervention?
Bonjour. Tout à fait. Ça fait partie de ces crises qui nous interpellent tous. Et je crois que l'ensemble de la communauté des bailleurs de fonds est poussée à faire changer ses logiques d'intervention. L'AFD intervient depuis longtemps dans la région Moyen-Orient-Méditerranée. Ceci dit, pas avec les mêmes instruments, pas avec les mêmes temporalités. Et donc, une crise humanitaire de ce type exige que les acteurs comme l'Agence française de développement fassent bouger leurs lignes en interne pour pouvoir agir de façon beaucoup plus réactive, souple et flexible face à une situation d'une extrême volatilité. Et c'est vrai sur le champ politique, mais du coup, ça a des répercussions sur la volatilité de la situation d'un point de vue social, humanitaire et économique.
Alors, je poursuis ce premier tour de table avec vous. Anna Jaber, bonjour.
Bonjour.
Anna Jaber, vous êtes chercheur associé à la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France. Vous êtes une spécialiste en particulier de la Jordanie. Vous travaillez aussi beaucoup sur les réfugiés palestiniens et plus généralement sur la question des migrations. Est-ce que ce genre de journée à laquelle vous n'avez pas assisté, je le précise, est-ce que ce genre de journée, cela vous rend un peu optimiste, cette préoccupation apparente en tout cas de la communauté internationale, des bailleurs de fonds, etc.?
Par rapport à la question des réfugiés ou par rapport à la crise syrienne?
Par rapport à la question des réfugiés syriens.
Par rapport à la question des réfugiés syriens, je ne sais pas quoi penser, à vrai dire. Parce que on a tendance à dissocier les réfugiés syriens de l'ensemble de la crise. Or, c'est une crise d'ensemble. C'est l'ensemble de la Syrie, de la population syrienne, de la société syrienne, qui est en crise, là, pour le coup. C'est l'État, la société, et autour de ça, ce sont toutes les frontières qui bougent. Donc, en l'occurrence, c'est pas tellement... Les réfugiés font partie de cet élément. Ils ont surgi d'un seul coup comme réfugiés, alors que jusque-là, ils étaient des citoyens. Donc, on a toute une série de problèmes qui sont déclinés autour, qui ne sont pas nécessairement d'ordre strictement économique, qui sont d'ordre démographique, qui sont d'ordre politique, qui sont d'ordre frontalier. Et c'est cet ensemble-là qu'il faut prendre en considération dans n'importe quel programme de développement sur lequel il va falloir se pencher.
Je termine ce premier tour de table avec vous, Hillel Rapoport, bonjour.
Bonjour.
Hillel Rapoport, vous n'avez pas non plus participé à cette journée. Je vous ai invité de l'extérieur, en quelque sorte. Vous auriez pu participer à cette journée, cependant, parce que vous êtes économiste, rattaché à l'École d'économie de Paris, où vous travaillez sur les questions de migration. Est-ce qu'il y a assez de réflexion collective, de recherche sur cette crise des migrants syriens dans le monde universitaire ?
Alors, l'essentiel des travaux universitaires porte sur sur l'Europe, hein, sur les pays d'accueil, essentiellement l'Europe. Il y a peu de choses qui sont faites sur les pays limitrophes, hein, Turquie, Liban, Jordanie. L'essentiel des travaux existants, j'y ferai référence peut-être un peu plus tard, concerne la Turquie.
Au cours de cette émission, vous entendrez aussi une interview du ministre libanais du Travail, Sijan El-Azi, et deux reportages, l'un de Laure Stéphane Beyrouth, et l'autre d'Angélique Ferrat à Amman. Farid Bellage, pourquoi avoir organisé cette journée de débat ? Quelle en était la nécessité ? Puisque vous êtes un des organisateurs, directeur de la Banque mondiale.
Nous sommes les co-organisateurs de cette journée. Il est important de mettre sur la place publique ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, au Liban, en Jordanie, en Turquie aussi. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas suffisamment.
Pourtant, les journaux en sont pleins.
Non, ils n'en sont pas pleins. Les journaux sont pleins du stress qui est mis potentiellement sur l'Europe. Ils ne sont pas pleins de ce qui se passe aujourd'hui au Liban. Ils ne sont pas pleins de ce qui se passe aujourd'hui en Jordanie. Et ils sont pleins des violences qui se passent en Syrie. Ils ne sont pas pleins des déplacements de population à l'intérieur de la Syrie. Il y a aujourd'hui un manque d'information flagrant, qui d'ailleurs trouve son corollaire en un manque de financement flagrant pour la Jordanie et le Liban. Je vous donne un exemple. Le Liban, pays de 4,2 millions d'habitants, qui aujourd'hui accueille 1 500 000 réfugiés. En plus des 500 000 réfugiés palestiniens qui sont là depuis la nuit des temps. Imaginez l'Europe avec un pourcentage équivalent par rapport à sa population. Des centaines de millions de personnes qui débarqueraient en Europe sur une étendue de 2 années. Totalement ingérable. Et pourtant, nous n'en parlons pas. Quand est-ce qu'on a commencé à en parler ? Lorsqu'il y a eu ce pauvre garçon qu'on a retrouvé sur une plage en Turquie. Lorsqu'on s'est aperçu qu'il y avait des réfugiés syriens qui commençaient à aller sur les côtes européennes. Et lorsque le débat sur les réfugiés et sur les migrants, d'ailleurs, concept généralement confus et qu'on mélange de façon bizarre, eh bien, lorsque ce débat est entré dans la vie politique européenne. Avant ça, nous n'en parlions pas. Et lorsque vous voyez aujourd'hui l'engagement de la communauté internationale auprès du Liban, de la Jordanie, il est proprement scandaleux que nous ne soyons pas au niveau des attentes de ces pays. Ces pays vont crouler sous le poids de cette pression. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas suffisamment de conscience prise par la communauté internationale pour aller vers ces pays et pour les aider.
Et qu'est-ce que cette journée apporte d'informations sur la situation économique de ces deux pays ?
Une autre opportunité de dire que cette question qui a commencé par être une question humanitaire, aujourd'hui s'est développée en une question de développement. Ce qui se passe dans ces pays-là ne doit plus être sujet d'une approche de sparadrap, d'essayer de compenser rapidement un problème. Non, il s'agit d'aller sur le long terme et de travailler avec ces pays pour faire que les gains de développement que ces pays ont eus sur les 25 dernières années ne soient pas remis en cause. Et pour qu'aujourd'hui, nous puissions profiter, entre guillemets, de cette crise pour relever le niveau de développement de ces pays et faire en sorte qu'ils puissent absorber sur un plan économique ces réfugiés et absorber globalement, sur un plan social, le poids de cette crise et le choc qu'ils sont en train de subir.
Une question de développement, Ilan Rapoport, cette crise des réfugiés en Jordanie, au Liban essentiellement.
Oui, absolument. Et je pense qu'il faut vraiment distinguer par l'ampleur relative les flux vers le Liban et la Jordanie, qui sont des flux d'un million et demi d'habitants pour des petits pays, démographiquement, de 4-5 millions d'habitants, avec la Turquie qui a peut-être deux fois plus de réfugiés, 2 millions, 2 millions et demi, mais pour une population de 80 millions. Donc là, on est dans des... L'Allemagne ne serait pas très loin en termes relatifs de la Turquie. On est plus dans un autre registre qui est plus comparable aux expériences historiques qu'on peut avoir, et l'essentiel du recul académique qu'on a là-dessus vient d'expériences historiques comme l'Allemagne de l'après-guerre ou l'Allemagne de la post-réunification, l'arrivée des pieds noirs en Algérie, des Grecs de Turquie en Grèce, etc. La Turquie est plus dans ce registre-là quantitativement. La Jordanie, le Liban, c'est quelque chose, on est dans l'inconnu. C'est la première fois qu'il y a quelque chose de cette ampleur, et donc c'est très très difficile d'apprécier véritablement les effets de long terme sur le plan économique.
La première fois qu'il y a quelque chose de cette ampleur, c'est un peu ce que me disait le ministre libanais du Travail, Sijan El Azi, auquel j'ai demandé ce qu'il pensait du rapport de la Banque mondiale qui a été diffusé et divulgué aujourd'hui, dont on parlera peut-être au cours de cette émission, et qui donne des chiffres très précis sur le niveau de pauvreté, sur le niveau d'éducation, sur la composition de ces vagues de réfugiés qui accourent tous les jours vers le Liban de Syrie. On écoute Sijan El Azi dire d'abord ce qu'il pense de ce rapport.
Vous savez, c'est un rapport fait par des experts. Le problème des réfugiés syriens au Liban ou ailleurs ne peut pas être résolu par les rapports des experts. C'est par une volonté politique internationale qui doit mettre terme à cette guerre interminable en Syrie et qui va dévaster tout le Moyen-Orient et menacer l'unité de tous les États du Moyen-Orient.
En attendant, il y a des masses considérables de déplacés, de réfugiés, dont beaucoup sont au Liban et en Jordanie.
Le Liban a toujours été un pays d'accueil pour les réfugiés. Actuellement, on nous dit qu'il faut garder les réfugiés syriens chez vous, et maintenant ils conditionnent les aides économiques et financières par le travail des Syriens chez nous. Nous sommes prêts à les accueillir. Il ne faut pas chasser les Syriens ni du Liban ni de la Jordanie. C'est un peuple frère. Ils passent par un drame extraordinaire. Mais la meilleure femme au monde ne peut pas donner plus qu'elle a. Nous sommes un pays sans ressources. Nous sommes un pays endetté de 72 milliards de dollars. La densité est actuellement de 562 personnes par kilomètre carré. Nous pouvons les accueillir sur notre sol, mais nous ne pouvons pas leur trouver les moyens d'un bien-être. C'est le rôle des nations étrangères, des grandes puissances. Il faut créer des centres d'habitation des Syriens à l'intérieur de la géographie du territoire syrien. Et je crois que ce n'est pas impossible s'il y a une vraie volonté arabe et internationale.
À l'heure actuelle, quels sont les problèmes économiques qui sont posés par la présence de ces réfugiés syriens au Liban ?
Il faut distinguer entre les répercussions de la guerre en Syrie et les répercussions de la présence des réfugiés syriens au Liban. Mais en tout et pour tout, les pertes du Liban depuis 2012 jusqu'à maintenant est de l'ordre de 13 milliards de dollars. Il y a une augmentation du nombre des Libanais qui vivent sous le seuil de pauvreté, et actuellement est de 1 170 000 Libanais. Le chômage au Liban était en 2011 11,3%. Il est actuellement, après la guerre de la Syrie, à 25%, dont 36% des jeunes.
C'est une catastrophe.
C'est une catastrophe pour le Liban. Actuellement, il y a chaque mois 18 000 Libanais qui quittent le pays. Pas pour faire la place aux Syriens, à cause de cette crise économique qui a multiples causes, dont la guerre en Syrie et la concurrence de la main-d'œuvre syrienne au Liban.
C'était donc une interview de Sijane El-Azi, ministre du Travail libanais. Olivier Rey, le rôle des nations développées, disait-il, c'est d'apporter le bien-être à ces réfugiés syriens qui sont en Jordanie, qui sont au Liban. Vous êtes directement interpellé, vous, en tant qu'un des responsables d'une agence européenne de développement, l'AFD en l'occurrence.
Oui, apporter le bien-être peut-être d'abord, en toute urgence, apporter des perspectives d'avenir pour ces populations qui aujourd'hui ne voient absolument aucune opportunité économique d'insertion. Et ça, il faut y répondre rapidement parce qu'on imagine...
Mais comment ?
Alors, il y a différentes façons de le faire. D'abord, en apportant des perspectives non seulement aux réfugiés, mais aussi aux populations hôtes des pays concernés qui les entourent. Il y a un risque de voir se développer des tensions fortes entre réfugiés et populations hôtes, si les populations hôtes se rendent compte que toute l'aide va uniquement aux réfugiés. Il y a des pauvres en Jordanie, il y a des pauvres au Liban. Et vous avez entendu le ministre indiquer le risque d'une concurrence sur le marché du travail, par exemple, entre les pauvres, entre les populations les plus vulnérables. Donc l'une des façons dont on travaille tous et de plus en plus, c'est d'intervenir sur les populations ou en appui aux populations les plus vulnérables, quelles qu'elles soient, et d'essayer de trouver les schémas gagnant-gagnant au niveau local, pour que, typiquement, un maire n'ait pas à faire le choix entre scolariser un jeune Syrien réfugié ou un jeune de son village. Et donc l'enjeu, c'est de passer à l'échelle très rapidement l'offre de services publics, encore une fois, pour qu'il n'y ait pas de choix à faire entre l'accès des réfugiés ou l'accès des populations hôtes. Et c'est tout l'enjeu de l'accompagnement et du passage à l'échelle.
Veut dire quoi, passage à l'échelle ?
Ça veut dire que le Liban, par exemple, a reçu un quart de sa population en à peu près un an, en réfugiés. C'est l'équivalent de 25 années de croissance démographique. Donc imaginez les infrastructures d'électricité, de transport qui ne sont pas paramétrées pour cette augmentation massive de population. L'enjeu, c'est de financer des projets d'électrification, d'accès à la santé, à l'éducation, à l'eau. Par exemple, l'AFD travaille avec ses collègues allemands et le gouvernement jordanien dans le nord de la Jordanie. L'enjeu, c'est de connecter les villes du nord qui ont accueilli beaucoup de réfugiés au système d'eau potable, encore une fois, pour pas que se développent des tensions sur l'usage de l'eau entre populations hôtes et réfugiés. Donc on voit bien avec ces exemples comment les aspects sociaux et économiques ont des impacts directs sur la cohésion sociale. L'urgence, c'est de ne pas donner des choix à faire entre est-ce qu'on s'occupe des réfugiés ou est-ce qu'on s'occupe des populations hôtes. Les deux ont le droit au minimum de services publics et c'est pour ça qu'il faut augmenter les financements internationaux et c'est ce qui a été acté à la conférence de Londres il y a deux semaines.
Anna Jaber, il vous convainc ce discours ?
J'avoue, j'écoute avec à la fois beaucoup d'intérêt et en même temps beaucoup de perplexité. Beaucoup d'intérêt parce que c'est comme ça depuis 20 ans. Ce sont ce type d'outils qu'on développe aujourd'hui pour réfléchir sur les différentes sociétés de la région. On a des catégories vulnérables, nous avons les réfugiés, nous avons les infrastructures, le service public, la privatisation, etc., les questions de genre et tout ça. Et en même temps, très perplexe parce que là, nous changeons réellement d'échelle. Vous l'avez dit, nous ne sommes plus dans les mêmes échelles de données. Nous sommes à des échelles d'État. C'est un plan Marshall qu'il faut faire, une sorte de plan Marshall comme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour cette région-là. Autrement, on ne fera que retarder les problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons à peu près, là, vous avez évoqué 5 millions de réfugiés.
Oui.
En fait, ils sont plus que ça. Ça, ce sont les chiffres officiels qui circulent, qui ont été déjà enregistrés. Mais les réalités sont beaucoup plus amples que ça. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, n'oublions pas que nous ne sommes pas en Europe. Au lendemain, monsieur tout à l'heure a évoqué l'Allemagne. Il a parlé d'Allemagne. Moi, j'aimerais bien que les réfugiés soient comme qu'ils aient le même sort que les réfugiés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Mais ça ne sera pas le cas parce que nous sommes dans des États qui n'ont pas encore réglé la question de la citoyenneté, la question de l'étranger aussi dans leur pays, dont l'équilibre politique et l'équilibre de leur régime, il est fondé sur certaines appartenances plutôt que sur d'autres. Donc l'intégration, le fait d'intégrer 2 millions de personnes par-ci, 2 millions de personnes par-là, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de politiquement extrêmement lourd et c'est ça qu'il faut travailler.
Alors nous allons revenir sur toutes ces questions plus économiques que politiques dans la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs. Nous nous retrouvons dans quelques instants après un flash d'actualité.
Autre rencontre, Lorient-Guingamp, Monaco 3, Angers-Montpellier et Toulouse, Gazlec-Ajaccio.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième partie d'Écho d'ici, écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous sommes installés dans les locaux de l'Agence française de développement, tout près de la gare de Lyon. Nous y sommes parce que cette émission est enregistrée à l'issue d'une longue journée consacrée au sort des réfugiés syriens par les experts de la Banque mondiale et du Haut Commissariat aux réfugiés. Quatre invités dans cette émission, Ferid Bellage, directeur de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient, Olivier Rey, responsable de la cellule de prévention des crises à l'Agence française de développement, Hillel Rapoport, économiste, membre de l'École d'économie de Paris, et Anna Jaber, chercheuse associée au Collège de France. Lors de la première partie de cette émission, nous avons parlé brièvement du rapport que la Banque mondiale et le HCR viennent de publier, et qui est consacré aux réfugiés syriens, mais aussi un peu du Liban, avec le ministre libanais du Travail que nous avons entendu. On va reparler dans cette deuxième partie un peu plus tard du Liban, mais voyons d'abord où en est la Jordanie dans l'accueil des réfugiés. Anna Jaber, est-ce que la Jordanie est aussi généreuse ou aussi ouverte que ce qu'on a entendu dire du Liban tout à l'heure?
Il faut revenir à l'histoire. Il faut savoir que la Jordanie est un pays qui s'est construit beaucoup, beaucoup autour des questions migratoires et autour des afflux de réfugiés. Donc en 48, il y a eu 500 000 personnes qui sont arrivées en Jordanie en tant que réfugiés. Je parle de la partie est de la Jordanie. Donc on est déjà, il y a l'exode de 67, il y a aussi l'exode de 91, il y a 2003 avec l'exode irakien, l'afflux des Irakiens, et il y a aujourd'hui cet afflux très important de Syriens qui finalement, en termes de qualité, serait l'équivalent du deuxième exode, de l'exode palestinien.
Qu'est-ce
en
que
plus
vous appelez
important.
Qualité?
C'est-à-dire que les Palestiniens sont venus et ils sont intégrés, ils ont participé de la structure politique du pays.
Est-ce qu'on a une idée du degré de qualification, une identification, une fiche signalétique de ces réfugiés? Est-ce que ce sont des paysans, des urbains?
L'un des enseignements du rapport des collègues qui ont participé à la conférence, c'est que les réfugiés au Liban, en Jordanie, n'ont pas exactement la même fiche signalétique en termes de région d'origine, en termes de compétences. Et c'est vrai aussi des migrants syriens qui viennent en Europe. Et donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir mobiliser le capital d'expérience, de connaissances des migrants là où ils se trouvent, ou des réfugiés là où ils se trouvent. Et ça, il faut être attentif à d'où est-ce qu'ils viennent. En l'occurrence, en Jordanie, on a beaucoup de réfugiés qui avaient été mis à mal par les sécheresses des années précédentes, parce qu'ils sont agriculteurs, ils étaient transhumants. Et en fait, dans les années avant la guerre civile en Syrie, et certaines personnes font le lien avec la guerre civile syrienne, cette population assez massive avait mis dans les villes secondaires de la Syrie. Et donc, on ne travaille pas avec ces populations de la même façon qu'avec les populations plus éduquées, plus urbanisées, qui viennent de Alep ou de Damas.
Farid Bellage.
Les réfugiés, c'est très bien, c'est très important. C'est un drame humain extrême. Il y a aussi l'autre partie de la discussion. Ce sont les communautés
d'accueil qui
sont aujourd'hui en train de traverser une période de leur histoire dramatique. Ils ont démontré, vous l'aviez mentionné tout à l'heure, beaucoup de générosité au départ, que ce soit au niveau de la Jordanie, vous l'avez bien mentionné tout à l'heure, il y a cette tradition d'avoir
Anna Jaber,
il y a cette tradition d'accueil, c'est vrai. Au Liban, il y a cette tradition d'aller et venir. Hein. Après tout, en 2006, après la guerre de juillet, il y a eu une vague de Libanais qui sont allés en Syrie, qui ont été accueillis. Donc maintenant, il y avait une sorte de retour, si on veut, hein, de la politesse, si on veut. Hein, Et puis ensuite, très vite, on s'est aperçu que le nombre de réfugiés qui arrivaient au Liban devenait ingérable. Que le nombre de réfugiés qui arrivaient en Jordanie est devenu extrêmement difficile à gérer là aussi. Et c'est là qu'il faut insister. Ce sont des pays qui aujourd'hui sont en train de crouler sous le poids d'une crise qui n'est pas de leur fait. Deux chiffres pour montrer l'impact que ces pays sont en train de subir. Nous avons constitué un rapport en 2013 que nous avons présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies qui a mesuré l'impact économique et social de la crise syrienne sur le Liban. L'impact économique, 7,5 milliards de dollars sur 3 ans, 2012, 2013, 2014. Nous avons obtenu, en termes de dons, 75 millions de dollars. Vous avez le delta.
C'est
entre 7,5, exact. Alors, effectivement, lorsque vous êtes dans une situation où la communauté internationale, dans sa grande générosité, arrive à presser 75 millions de dollars pour gérer une crise de 7,5 milliards de dollars, on peut se poser des questions. Et c'est la même chose quand il s'agit de la Jordanie. Une échelle un tout petit peu différente, mais c'est la même chose quand même. Donc il y a une urgence aujourd'hui à relever le niveau de conscience des pays qui ont la capacité de financer la sortie de la crise ou au moins l'amortissement de cette crise par rapport soit au Liban, soit à la Jordanie.
Alors, Alain Chabert, vous réclamez la parole, je vous la donnerai dans un instant, mais d'abord, on part à Amman. Amman, où selon le HCR, il y a 635 000 réfugiés syriens, à Amman et dans tout le pays. Amman a annoncé à Londres, lors d'une conférence qui s'est tenue il y a 2 semaines maintenant, que son marché du travail pourrait partiellement être ouvert à la population réfugiée. Un changement de pied, puisque depuis 5 ans, c'était un niet catégorique. Les réfugiés syriens en Jordanie vivent pour le plus grand nombre d'entre eux hors des camps, et 140 000 y travailleraient au noir. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Angélique Ferrat à Amman.
Les réfugiés syriens perçoivent tous une aide alimentaire distribuée par le Haut Commissariat aux réfugiés et c'est tout. Abou Omar a 3 enfants, il vit dans un meublé à Amman. Il doit payer 250 dinars jordaniens de loyer chaque mois, plus 50 dinars pour le bus de l'école de ses enfants. Alors les 50 dinars d'aide alimentaire mensuelle, vous le comprendrez, sont insuffisants. Abou Omar travaille donc, sans permis de travail, à la commission. Une façon de dire qu'il est payé moins qu'un ouvrier jordanien et à la journée.
Les Syriens ne sont pas autorisés à travailler. Les Nations Unies me donnent juste 50 dinars par mois et des coupons de nourriture de seulement 10 dinars par personne. Rien d'autre. Rien pour le loyer, par exemple. Donc je dois travailler. Car en plus, parfois, ces coupons sont suspendus quand les fonds sont épuisés.
Les ONG constatent toutes que les réfugiés s'appauvrissent. 3/4 des familles syriennes seraient sous le seuil de pauvreté locale. Patrick Daru, de l'Organisation internationale du travail, se dit donc satisfait de l'assouplissement de la ligne jordanienne. Le marché du travail devrait s'ouvrir aux réfugiés syriens. Le HCR se dit même prêt à financer 4000 permis de travail.
Il est pensé que ces Syriens vont remplacer la population migrante dans certains secteurs. Il est bien certain que s'il n'y a pas d'investissement et s'il n'y a pas de progrès d'un point de vue du commerce, ça posera des problèmes pour la mise en place du système.
En clair, les Jordaniens assouplissent leur position si et seulement si la communauté internationale, les entreprises internationales créent des sociétés et des emplois en Jordanie. Abou Elmajd sourit tristement à cette annonce. Les Syriens ne pourront remplacer que la main-d'œuvre égyptienne ou asiatique dans des secteurs comme l'agriculture ou l'industrie. Les salaires y sont très bas, 100 à 200 dinars par mois. Il compare avec sa situation. Il vit aujourd'hui gratuitement dans 2 petites pièces en sous-sol avec sa femme et ses 2 enfants. Il ne paye pas l'électricité. Il gagne 100 dinars par mois et même comme cela, il n'y arrive pas.
Le pays est cher. Vraiment cher. 100 dinars, ce n'est rien. Moi, j'ai des enfants. Et 100 dinars, ce n'est pas assez pour une personne. Alors pour 4, vous imaginez ?
30 000 enfants travailleraient illégalement en Jordanie pour aider leur famille. S'ils sont arrêtés par la police, ils sont envoyés dans un camp de réfugiés. Souvent, ils y restent seuls. Leurs familles ont peur de venir les chercher.
Reportage signé Angélique Ferrat à Amman. Il a le rapport. Qu'est-ce qu'il vous inspire? Est-ce qu'on assiste à une paupérisation générale de ces réfugiés et de la population locale?
Ce que montrent les études sur la Turquie, c'est qu'il y a une baisse de l'emploi des populations locales, que celle-ci passe essentiellement par une baisse de l'emploi informel, qui est celui qui est directement en concurrence avec le travail des réfugiés, puisque souvent c'est légal, ils n'ont pas légalement le droit de travailler jusqu'à récemment en Jordanie. En Turquie, c'est un peu plus souple, mais il y a néanmoins des restrictions. Donc les réfugiés sur le marché du travail sont en concurrence plutôt avec les natifs dans le secteur informel. Donc là, on voit une baisse, une légère hausse de l'emploi formel, mais au total, le niveau d'emploi des natifs qui a baissé légèrement en Turquie. Mais là encore, il faut se souvenir qu'il y a eu une différence d'échelle qui a été soulignée au début, mais qualitativement, on va quand même dans cette direction-là, avec à la fois une hausse du chômage pour les natifs et aussi une sortie du marché du travail formel de la part des natifs. D'autres effets qui ont été observés, qui sont ceux-là positifs, c'est une baisse des prix de manière générale. En fait, comme il y a une substitution de la production informelle à la production formelle, ça veut dire qu'on a des produits qui coûtent moins cher, qui sont mis en vente sur le marché. Donc là, c'est un effet positif sur le pouvoir d'achat des natifs, qui est quelque chose qui n'est pas à négliger. Et puis enfin, un effet négatif, celui-là, c'est la concurrence sur le marché du logement qui crée une hausse des loyers. Je pense que c'est important de faire ce type d'études quand même assez précises parce que, par exemple, dans l'interview du ministre du Travail libanais, il précisait que bon, il y avait à la fois les répercussions de la guerre et les répercussions de la présence des réfugiés et qu'il est vraiment difficile de faire la part des choses si on n'a pas des méthodes qui permettent de le faire. Donc ici, je crois que les études économiques ont vraiment quelque chose à apporter en termes d'analyse, d'identification des mécanismes qui sont à l'œuvre.
Cet écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI, nous parlons de la situation économique des réfugiés syriens et des pays qui les accueillent, essentiellement la Jordanie et le Liban. C'est à l'occasion de la diffusion par la Banque mondiale et le HCR d'un rapport qui cherche à évaluer la situation économique des réfugiés syriens et des populations hôtes. Quatre invités dans cette émission, Farid Bellage, directeur de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient, Olivier Rey, responsable de la cellule de prévention des crises à l'AFD, l'Agence française de développement, Hillel Rapoport, économiste, membre de l'École d'économie de Paris, et Anna Jaber, chercheur associé au Collège de France. Anna Jaber, encore un mot sur la Jordanie, puis on va reparler du Liban. Dans vos études, vous le constatez, cet appauvrissement ?
Moi, je voulais, avant de revenir sur la question de l'appauvrissement, parce que ce sont deux questions liées, revenir sur la question de la générosité qu'on avait évoquée d'ailleurs à l'instant, et sur la question de l'accueil et de la prise en charge et du coût des réfugiés. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout de même, à l'arrivée et pendant les deux ou trois premières années, les deux premières années au moins, ce sont quand même c'est la société civile et la population locale qui a accueilli les réfugiés. Qui a porté l'accueil, qui a porté les modalités d'intégration, qui a porté les gestes de solidarité dans l'ensemble. L'État jordanien n'est intervenu que plus tard, vraiment assez tardivement. Le premier camp a été construit un an et demi après l'arrivée des réfugiés. Donc, en l'occurrence, c'est seulement au moment où, quelque part, il y a eu une saturation au niveau des infrastructures urbaines, de l'eau, de l'électricité, qu'il y a eu un sentiment qu'on est un peu débordé par les réfugiés. Mais il faut savoir que ce sont des sociétés qui ont à la base des liens de mariage, qui ont des liens géographiques de circulation, sans oublier le fait que avec les réfugiés sont venus, mais ils sont venus d'abord avec leurs capitaux, ce ne sont pas que des pauvres, ils viennent de quelque part, ces gens-là. Ils viennent avec des compétences, ils sont arrivés, ils ont complètement changé le paysage du nord de la Jordanie, par exemple, qui est devenu méconnaissable, qui ont apporté une grande dynamique économique dans des pays comme, dans des villes comme Erbid, comme Ramtha et aux environs. Ils ont apporté quelque chose qui manquait à la Jordanie, cette tonicité commerciale qui est historiquement le propre des Syriens, s'est déplacée vers la Jordanie. Donc, à partir de là, quelque chose se met en place et la population locale se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, évidemment, il y a une augmentation des prix. L'augmentation des prix, les économistes connaissent le circuit.
Mais Hillel Rapoport dit le contraire, baisse des prix.
Ça, il parle pour la Syrie, pour la Turquie. Mais il y a augmentation des loyers, augmentation des prix, etc. Bon, là, on retrouve un schéma classique de paupérisation plus global.
Farid Bellage.
Vous avez parfaitement raison. Hein. Il y a effectivement eu un frémissement en termes de dynamique économique du côté de Zaatari et dans le Nord. Dans le même temps, l'économie jordanienne a ce tout travers, peut-être, d'avoir mis en place des systèmes de compensation très importants.
Qu'est-ce que vous appelez des systèmes de compensation?
Compensation sur l'électricité, sur l'eau, sur les produits de base, le gaz, etc. Subventions. Alors, ces subventions-là, qui étaient dirigées vers les citoyens jordaniens, sont aujourd'hui accessible à tout le monde. Autrement dit, l'État jordanien, c'est là où je voulais en venir. C'est vrai que la société civile a fait ce qu'il fallait faire. Mais l'État jordanien aussi, il y a eu une pression fiscale, une pression budgétaire sur l'État jordanien qu'il a fallu compenser d'une manière ou d'une autre. Et effectivement, là, par exemple, je vous le dis rapidement, la première intervention de la banque en juillet 2013 a été justement à travers un financement pour permettre à l'État jordanien d'absorber ce premier choc fiscal
budgétaire,
qui a été budgétaire, auquel a été soumis l'État jordanien. C'est vrai que globalement, on peut avoir une discussion là-dessus et on peut dire, qu'est-ce qui a pesé le plus? Est-ce qu'il y a eu une augmentation de cette dynamique économique qui a permis quelques activités dans le Nord? Dans le même temps, subvention, dans le même temps, sécurité? Parce que comme le disait un Jordanien, si sur les 1 million de réfugiés ou 900 000, ou, il y avait 99% de Mère Thérèse, il y en a toujours 1% qui pourrait être des gens qui ne sont pas là nécessairement pour avec des intentions particulièrement pacifiques. On ne sait jamais. Donc il y a une dimension sécuritaire, une dimension budgétaire, une dimension de friction sociale, quoi qu'on le dise. Au début, il y avait effectivement « nous sommes tous des frères ». Au bout de quelques mois, c'est devenu compliqué. Parce qu'il y a un travail de compétition sur le marché de l'emploi, sur les questions de logement, etc. Donc, la situation est extrêmement complexe. Et c'est pour ça que pour nous, Banque mondiale, aller sur une sorte de catégorisation, c'est très important pour les chercheurs. Mais globalement, ces deux États sont sujets à une pression qu'il faut résorber d'une manière ou d'une autre. Et la seule manière aujourd'hui de résorber cette pression, ou en tout cas d'aider à la résorber, c'est d'avoir la communauté internationale à laquelle, et je finis ici, à laquelle ces deux pays fournissent un bien global, un bien important, qui est celui de réduire la tension qui pourrait être en fait transférée vers l'Europe. Okay ? Donc c'est là qu'il est important de dire, nous ne pouvons pas faire en sorte que ces pays-là payent ce bien qu'ils sont en train de fournir à la communauté internationale.
Olivier, un mot et puis nous partons à Beyrouth où nous sommes attendus.
Par les coups de l'inaction, on voit bien que le Liban et la Jordanie sont au bord de la rupture budgétaire, c'est des systèmes économiques vulnérables. On a parlé de la cohésion sociale et des tensions. Il y a un vrai risque d'extension par tache d'huile finalement et par ces tensions locales du conflit en Syrie au voisinage. Imaginons une minute le coût humain, évidemment, mais aussi le coût d'opportunité en matière de croissance et de développement pour ces pays, mais y compris les coûts budgétaires s'il fallait investir dans l'aide humanitaire, dans la sécurité, si jamais le Liban, la Jordanie basculaient dans la crise à leur tour. Et donc, il y a un enjeu fort d'investir aujourd'hui pour les aider à prendre en charge ce surcoût avant qu'il soit trop tard et qu'on dépense beaucoup plus, et sans compter le coût humain qui ensuite reste sur des générations et générations. Mais je ne veux pas laisser entendre ou laisser croire qu'il n'y a pas de solution. On a parlé toute la journée à cette conférence d'éléments de solution aux problématiques de la hausse des prix. Il y a des régulations possibles. Aux problématiques du risque de nivellement par le bas des salaires, là aussi il y a des salaires minimums envisagés sur place dans le cadre de régulation. Il est possible d'utiliser les compétences qui sont importantes des réfugiés syriens pour la réponse. Il y a des enseignants qui peuvent enseigner dans les camps. Ou ailleurs, il y a des docteurs qui peuvent être utilisés. Il est aussi possible de financer des travaux à haute intensité de main-d'œuvre dans la construction de ces services publics, l'eau et notamment. Et donc, ces solutions sont disponibles. L'enjeu, c'est d'articuler les projets, les financements et les politiques publiques, y compris l'accès au marché du travail. Et c'est ce que la Jordanie a décidé de faire.
Nous partons maintenant à Beyrouth, où nous allons voir une autre facette de cette situation. Il y a beaucoup de monde à Beyrouth, au Liban, beaucoup de réfugiés syriens, officiellement 1 million, 1,5 million, mais il est difficile de les quantifier, il en arrive tous les jours. Une présence massive dont les commerçants libanais bénéficient, comme l'atteste ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Laure Stéphan.
C'est dans un supermarché de la banlieue de Beyrouth que nous rencontrons Adan, installé depuis près de 4 ans au Liban. Il fait partie des quelques 600 000 réfugiés soutenus par le programme alimentaire mondial, le PAM. Pour chaque foyer bénéficiaire, l'aide à travers des cartes de paiement est de près de 21 $ mensuels par personne. Et selon Adan, les réfugiés contribuent à la consommation.
Ce que j'achète, des aliments variés. Cette aide est essentielle. Je travaille comme ouvrier, mais ça ne suffit pas, on est 5. Chaque mois, j'achète de la nourriture en plus de l'aide. Au total, on consomme pour plus de $300 par mois. La nourriture, les loyers que payent les réfugiés, bien sûr, ça aide l'économie ici, mais les loyers sont très chers, tout est très cher.
Comme Adan, d'autres réfugiés syriens sont clients de la COP Notre-Dame à Hadas. Il s'agit de l'un des 400 supermarchés au Liban où les bénéficiaires de l'aide du PAM peuvent faire leurs achats. Pour le directeur du magasin, Pierre Stéphan, ce partenariat partenariat lui permet d'alléger les difficultés qu'il connaît à cause de la crise économique dans le pays. Dans son affaire, la part des achats effectués par les réfugiés syriens est loin d'être négligeable.
C'est 35%. C'est un plus. Chaque 5 du mois, on attend cette vague de personnes qui vient acheter à peu près 100 $ par famille. Pour moi, c'est une barre de sauvetage dans l'eau. C'est la barre qui m'a fait un peu survivre, d'avoir ce contrat avec les UN.
Depuis mai 2012, c'est un montant de près d'un demi-milliard de dollars que le PAM a injecté dans l'économie libanaise à travers l'aide alimentaire aux réfugiés. Issa Sanogo, directeur adjoint du PAM au Liban.
On a eu une étude en 2014 qui indiquait qu'il y avait au moins 1300 créations d'emplois dans les boutiques, ce qui n'est pas négligeable. On a aussi un effet multiplicateur de l'injection de revenus à travers l'assistance par les cartes, qui est de 1,5. Ça a aussi des impacts sur la production locale.
Selon des économistes locaux, ces effets positifs se font sentir en ville, mais aussi dans les zones rurales peu développées. S'ils soulignent les répercussions négatives de la crise syrienne sur le plan macroéconomique, Issa Sanogo estime que l'aide humanitaire a permis de limiter la dégradation au niveau microéconomique.
C'est un effet de coussinet. Je dois dire que ce n'est pas le PAM uniquement, parce que on a une assistance humanitaire qui va au-delà du milliard de dollars quand on prend les différentes agences des Nations Unies qui interviennent et les organisations non gouvernementales. C'est un montant énorme.
C'était un reportage signé Laure Stéphan à Beyrouth. Farid Bellage, on y est là au développement pratiquement, non?
Oui. Oui, on y est. On y est en termes conceptuellement. Conceptuellement. Oui. Ce qui est important, c'est d'y être. Réellement, c'est-à-dire que le financement suive. Et je regrette d'être en train d'insister sur cette dimension, mais il me semble, et vous l'aviez indiqué au tout début de cette émission, il vous semblait que nous parlions suffisamment de cette situation, et je vous ai répondu que nous n'en parlons pas assez. Et il me semble qu'il faut continuer à insister sur le fait que, nonobstant les cris d'alarme qui sont lancés à partir de la région, ce qui arrive en Europe, ce qui arrive aux États-Unis, ce qui arrive sur les côtes des pays qui ont la capacité financière d'aider, eh bien, n'est pas suffisamment fort. Alors, je conçois comme étant mon rôle de continuer à insister sur le fait qu'il n'y a pas suffisamment de financement et d'assistance sur la table aujourd'hui pour le Liban et pour la Jordanie.
Pourtant, il y a eu une conférence à Londres à laquelle je faisais allusion, qui a promis quelques milliards de dollars.
Ce sont des promesses, et comme on dit, les promesses ne valent que pour ceux qui les croient. Alors, je voudrais bien croire ces promesses. Il y a eu Koweït 1, Koweït 2 et Koweït 3. On n'a pas vu grand-chose. Il y a Londres 1. Mais nous allons voir si effectivement il y aura quelque chose qui va se matérialiser. Mais pour le moment, moi, ce que je vois, l'expérience que je vois, ce que je vois sur le terrain, ce sont deux pays qui sont en train de se débattre dans une situation extrêmement compliquée, avec beaucoup de bonnes paroles et beaucoup de promesses, mais qui ne se traduisent pas nécessairement en réalité financière, en tout cas pas à travers les circuits de l'État, qui sont ceux dont on a besoin pour effectivement mettre en place une mécanique qui permette d'absorber le choc économique.
Il a le rapport, c'est ce qu'il faut, ces dons, ces prêts de la communauté internationale.
Farid Bellage, j'ai employé le terme de bien global. Je ne sais pas si les auditeurs ont complètement saisi ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il s'agit de faire un bien qui va profiter à tout le monde. Et il y a deux moyens de contribuer à ça. Il y a la solidarité physique, c'est l'accueil physique des réfugiés. Et là, on voit bien qu'il y a une disproportion énorme entre les pays limitrophes qui accueillent l'essentiel du flux des réfugiés et le reste du monde qui en accueille une petite partie. L'Europe principalement accueille des flux significatifs, mais qui restent très petits par rapport à ceux des pays d'accueil. Et l'autre moyen de contribuer à un bien public, c'est la solidarité financière. Et là, à la fois en termes de pour combler la disproportion actuelle et aussi en termes de capacité de financement, il est clair que les pays occidentaux, l'Europe, les États-Unis sont les premiers contributeurs et qu'on attend un effort beaucoup plus significatif. Comme l'a souligné Olivier Rey, c'est aussi un bon investissement. Il faut en être conscient parce que les conséquences d'un dérapage sont incalculables. Et donc, ça paraît être une très bonne politique d'essayer d'investir pour contenir dans un premier temps les effets sur les économies des pays d'accueil. Je voudrais souligner aussi qu'à long terme, si on a une perspective de plus long terme, généralement l'intégration fonctionne et les pays, comme les expériences historiques que j'ai rappelées tout à l'heure, sont dans l'ensemble des succès. Avec le bémol important Jaber a souligné, c'est qu'il faut aussi que les réfugiés aient une perspective d'intégration. C'est pas uniquement économique, ça passe par la citoyenneté. Et là, la question se pose aussi. C'est clair que si on parle des Turcs qui sont arrivés en Grèce, des Allemands de l'Est qui sont revenus en Allemagne, des Russes qui sont arrivés en Israël, etc., il y avait des deux côtés une volonté de les accueillir, de les intégrer. La réalité locale, en Jordanie, au Liban notamment, est beaucoup plus complexe.
C'est la fin de cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré aux réfugiés syriens en Jordanie et au Liban, et aux défis économiques que tous ensemble ils doivent relever. Si vous voulez continuer avec le même genre de sujet, l'émission Orient Hebdo de ce samedi, toujours sur RFI, y est consacrée. En tout cas, merci à vous quatre, Farid Bellage, Anna Jaber, Olivier Rey et Hillel Rapoport de nous avoir éclairés. Cette émission était réalisée par Boris Vichit et Guillaume Munier, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.